Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Dans les chroniques précédentes, nous avons évoqué les figures fondatrices de l'Europe. Toutes sont des hommes. Alors Daniel, est-ce à dire que les femmes n'ont pas leur place dans la construction européenne ?
Alors Yann, rappelons que le continent européen doit son nom à une figure féminine de la mythologie grecque, une princesse phénicienne, Europe, enlevée par Zeus et emmenée sur l'île de Crète. Alors si on s'en tient aux acteurs historiques, force est de constater un entre-soi masculin total. Et pourtant, des femmes, à différents moments de l'histoire, ont incarné le rêve européen. La première, Anne-Louise Germaine Necker, plus connue sous le nom de Madame de Staël, est qualifiée parfois de Madame Europe. Née en 1766 à Paris, d'un père banquier richissime suisse, elle est genevoise et française. Formée aux sciences, aux arts et aux langues, elle est initiée à la politique par son père, à la littérature par sa mère. À 20 ans, elle épouse le baron de Staël, ambassadeur de Suède à Paris, et débute sa carrière de femme de lettres. La révolution qu'elle accueille pourtant favorablement la contraint à l'exil en Angleterre en 1793. De retour en France, sous le Directoire, elle approche le jeune général Bonaparte qu'elle admire. Mais le courant ne passe pas, et au lendemain du coup d'État du 18 Brumaire, elle ne cesse de dénoncer la dérive autoritaire du premier consul. Elle est exilée en 1803 de Paris, puis de France. Elle entreprend alors un voyage de plusieurs mois en Allemagne, puis en Italie. Elle en tire une conviction qu'elle ne cessera d'affirmer, j'ouvre les guillemets, « il faut, dans nos temps modernes, avoir l'esprit européen ». En 1810, avec la parution de son ouvrage « De l'Allemagne », elle entend faire découvrir aux lecteurs français la richesse culturelle allemande, notamment littéraire. Mais le livre part au pilon et l'écrivaine est bannie. Dans 10 années d'exil, livre posthume, on suit sa traversée de l'Europe, de Vienne à Berlin, de Saint-Pétersbourg à Londres. Elle est reçue dans les cours européennes et côtoie les gens de lettres les plus célèbres. À son retour à Paris, au lendemain de la chute de l'Empire napoléonien, elle rouvre son salon et jusqu'à sa mort en 1817, elle reçoit beaucoup. Pour l'historien Gérard Gingembre, j'ouvre les guillemets, elle a été une étape décisive dans la constitution de l'intellectuel moderne, c'est-à-dire européen.
Une autre figure féminine iconique de la construction européenne ?
Alors, il est une femme que l'on surnomme la grand-mère de l'Europe. Il s'agit de Louise Weiss, française, née en 1893 à Arras, dans une famille de la grande bourgeoisie républicaine, patriote et laïque, d'origine alsacienne, elle obtient à 20 ans l'agrégation féminine de lettres classiques. En 1914, elle refuse un poste d'enseignante et crée un dispensaire pour soigner les soldats. En 1918, elle opte pour le journalisme et participe à la création de la revue hebdomadaire L'Europe Nouvelle, dans laquelle elle traite de la politique internationale. Présente lors de la signature du traité de Versailles, elle se convainc de la nécessité de construire une paix juste avec l'Allemagne. Couvrant l'actualité de la SDN, la Société des Nations, elle soutient les efforts de paix d'Aristide Briand et son projet d'Europe fédérale. Au fil des rencontres, notamment celle de Jean Monnet, elle devient une plume reconnue en matière diplomatique. En 1930, Louise Weiss fonde la Nouvelle École de la Paix, un établissement supérieur d'enseignement supérieur au service de la paix. Dans ces mêmes années, elle s'engage dans le combat féministe. À la tête de l'association La Femme Nouvelle, elle milite pour l'égalité des droits civils et politiques, notamment le droit de vote et d'éligibilité. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, pour la Croix-Rouge française, elle se rend aux États-Unis où elle collecte médicaments et vivres de première nécessité. Dans la France occupée, elle participe à la rédaction du journal clandestin La Nouvelle République. Au lendemain de la guerre, Louise Weiss anime l'Institut français de polémologie et sa revue Guerre et paix. Elle produit une œuvre littéraire abondante. Elle parcourt le monde et réalise de nombreux films documentaires qu'elle présente lors de conférences dans toute l'Europe. En 1979, à 86 ans, elle est élue au Parlement européen. En tant que doyenne, elle prononce le discours inaugural avant de céder le fauteuil présidentiel à une autre femme. Elle décède en 1983, avant la fin de son mandat. Son nom est donné en 1999 au nouveau bâtiment du Parlement européen de Strasbourg.
Alors, quand on lit « Femme et Europe », on pense Simone Veil.
En effet, Yann, en effet. Simone Veil naît à Nice en 1927 dans une famille juive non pratiquante, aux origines lorraines. Au lendemain de l'armistice entre Italiens et Alliés en 1943, l'armée allemande remplace les Italiens dans le sud-est de la France. Simone est arrêtée en juin 1944 et déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau. Après des études de droit et de sciences politiques, elle réussit le concours de la magistrature en 1956. Sa carrière est rapide jusqu'à intégrer en 1969 le cabinet du ministre de la Justice. Libérale et centriste, elle devient en 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, ministre de la Santé. À la demande de ce dernier, elle porte le projet de légalisation de l'avortement en France, ce qui lui vaut dans le pays tout à la fois reconnaissance et haine. Convaincue que, j'ouvre les guillemets, l'Europe c'est le grand dessein du XXIe siècle, elle est tête de liste giscardienne aux élections européennes de 1979, premier scrutin au suffrage universel direct, sa liste l'emporte largement. En juillet 1979, l'ancienne déportée est élue à la présidence du Parlement européen comme un symbole vivant de la réconciliation franco-allemande. À l'issue de son mandat, en janvier 1982, elle préside jusqu'en 1989 le groupe libéral. En 1993, elle quitte le Parlement, auquel elle aura donné une visibilité sans pareille.